Donc, je n'ai pas changé mon titre et j'essaie d'aller vite. George Sand fait partie des figures de femmes écrivains à avoir acquis une notoriété remarquable dans son siècle. En témoignent notamment les articles qui lui sont consacrés à l'étranger et les traductions de certaines de ses œuvres de son vivant. Mais les critiques, qu'elles soient d'ailleurs acerbes ou louangeuses, peinent à mesurer la personnalité de l'écrivaine à l'aune des catégories genrées. La nature de Sand, trop masculine ou trop féminine, pêcherait par excès jusqu'à la caricature, sentimentale et coulante de style ou virile, voire violent. Mais on pourrait opposer à cette approche par le tempérament le questionnement de ce qui pourrait bien être une stratégie de la part de Sand pour influer sur la réception de ses œuvres, stratégie fondée sur sa conscience aiguë de la perception genrée et qui autorise main détournement, c'est en tout cas l'hypothèse que je voudrais développer aujourd'hui. Sand pratiquerait ainsi, comme l'a montré par exemple Pierre Laforgue, ce que l'on pourrait nommer un détournement topographique lorsqu'elle réinvestit de façon singulière l'espace pour elle essentiel du jardin, compris comme, je cite Pierre Laforgue, un espace critique où se problématise une interrogation complexe sur la naturalité et la socialité, alors même, je parle, que cet espace topique s'inscrit dans une tradition a priori plus légère, spiritualiste ou sentimentale, souvent associée à la sphère domestique, l'un de ces espaces en principe autorisés aux femmes, donc. Il en va de même plus largement de la veine champêtre et de la réappropriation du genre de l'idylle. Là aussi, je renvoie au même article de Pierre Laforgue qui déduit de son analyse du paratexte de la petite fadette que, je le cite, esthétique et politique y sont réunis dans une commune référence à la nature et que la possibilité d'une écriture célébrant les campagnes est fondée sans que cette écriture s'apparente à celle d'une idylle totalement désamarrée de la réalité. Idylle et bergerie ont donc le double avantage de détourner l'attention des enjeux sociétaux et politiques du propos et d'associer à la romancière une écriture jugée plus adéquate à son sexe. Il convient mieux, sans doute, à une femme, Sand le sait bien, d'écrire, je la cite, une douce chanson, un conte pour endormir les petits-enfants sans frayeur et sans souffrance, comme elle prétend le faire dans la notice de 1851, La Petite Fadette, plutôt que de dénoncer crûment les maux dont souffre la société. Sand joue donc à l'évidence de l'horizon d'attente de ses lecteurs en se fondant sur l'idée qu'elle se fait de la réception des genres genrés par le lectorat et plus encore peut-être par la critique. Mon premier point que je vais aborder très vite, de manière très schématique, deux genres pour femmes au XIXe siècle, le roman romanesque et le conte. Au cours du XIXe siècle, alors on l'a dit ce matin, le roman sentimental en particulier devient le genre par excellence pour les femmes en mal d'écriture, mais ce territoire abonde en zones interdites ou tout au moins inappropriées, zones dans lesquelles Sand n'hésite toutefois pas à s'aventurer, qu'il s'agisse de politique, d'analyse sociale ou de philosophie. Sombre ou vindicative, crue et contestataire, elle déroge alors à la loi des représentations codifiées des sexes, comme le confirmera par exemple, plus tard, le jugement du vicomte de Broc dans son ouvrage de 1911 « Les femmes auteurs ». Il écrit « Madame George Sand a régné sur son époque en la scandalisant ». Souvent confrontée au refus ou à la méfiance de ses éditeurs, Sand, dès lors, n'hésite pas à masquer ses prétentions en faisant mine d'emprunter les chemins plus sages et moins suspects de l'imagination et du sentiment. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, et sans s'en rabattre pour autant sur ses prétentions critiques et idéologiques, elle choisit d'emprunter les voies de ce qu'elle décide de nommer « roman romanesque », érigeant ainsi une catégorie esthétique qui lui est propre. Comme je l'ai montré ailleurs, la publication de ces histoires s'intègre à une stratégie qui prétend évacuer la dimension sociale ou politique de textes qui se présentent alors comme d'amples fictions que caractérise leur nette propension à l'excroissance diégétique, leur goût affiché pour l'excès comme pour la fantaisie et surtout pour le déploiement d'une imagination que l'écrivain définit elle-même comme l'expression d'un appétit du beau idéal dans Histoire de ma vie. Un exemple, mais très rapidement, Le Piccinino. Le Piccinino, roman de 1847, est un bon exemple, je trouve, de cette démarche qui n'exclut pas, ceci étant, un authentique plaisir de l'écriture. La notice de 53 affirme qu'il s'agit d'un roman de fantaisie qui n'a la prétention ni de peindre une époque historique précise, ni de décrire fidèlement un pays. La fantaisie convoque l'imagination et induit un libre traitement des thèmes et variations du roman, option que confirme le choix du personnel de la fiction dont le titre désigne d'ailleurs un type littéraire qui ne s'inscrit pas dans une perspective réaliste, celui du chef de brigand qui a défrayé tant de romans et de mélodrames sous l'Empire et sous la Restauration, elle se plaît à le souligner dans sa notice. Ce roman, situé dans une Sicile réinventée, déploie donc une aventure, mais aux arborescences multiples, fondée sur une quête identitaire périlleuse qui fait ressurgir d'anciens secrets et génère l'interaction des personnages qui combinent roman noir et féerie. En fait, le romanesque, tel que l'entend Sand, est relativement conforme aux représentations que l'on se fait des compétences des femmes à son époque. L'idée véhiculée par la doxa étant que celles-ci diffèrent des hommes, je cite de nouveau le vicomte de Broc, par la manière de se servir de leur intelligence et par les dons inhérents à leur nature et à leurs conditions. Elles auraient plus d'imagination donc et de sensibilité, ce qui induirait une tendance à la rêverie et à la fabulation, en accord donc avec cette esthétique romanesque. C'est pourquoi, par exemple, René Bourgeois, dans l'édition qu'il a donnée du Piccinino, peut qualifier ce roman sicilien de roman sans ampleur, un roman, écrit-il, qui répond à une mode et qui l'oppose a priori à la profondeur et à la complexité sérieuse de Consuelo. Toutefois, le discours qui se tisse autour de l'œuvre, le discours par Sand elle-même, érigé par Sand elle-même, qui se tisse autour de l'œuvre, abonde en contradictions et se retourne en fonction du contexte. Car s'il est ici question d'un roman qui ne contrevient pas, je viens de le dire, à la représentation doxique de l'écriture féminine, en revanche, on remarque que l'ensemble des propos de l'épistolière relève d'un point de vue surplombant, ou de l'auteur préfacier, relève d'un point de vue surplombant, analytique et politique. En effet, Sand, dont on voit bien d'ailleurs dans sa notice qu'elle prend soin de ne jamais éluder totalement ce qu'elle prétend rejeter, il y a des formules qui témoignent de cela, déploie à côté de son roman un discours qui concerne tout aussi bien la production de ses confrères, ce qui induit un sentiment d'appartenance au groupe et d'égalité, que les attentes supposées du public, ce qui laisse entendre un point de vue conscient sur la réception genrée. Enfin, les aveux d'histoire de ma vie, on les connaît, sur ce roman, permettent de mieux cerner la stratégie de l'auteur et de mieux saisir la posture qui est ici la sienne. Je cite « Ce que je pense de la noblesse de race, je l'ai écrit dans le Piccinino et je n'ai peut-être fait ce roman que pour faire les trois chapitres où j'ai développé mon sentiment sur la noblesse », affirme-t-elle. Ces déclarations témoignent donc d'un double discours, révélateur d'une parfaite maîtrise des composantes de l'écriture, écriture précisément contextualisée par son auteur. Ce dispositif énonciatif complexe, roman, paratexte, épitexte, la correspondance, intratextualité aussi, permet de voir se dessiner les contours de ce qui devient, à l'échelle de l'œuvre, un processus de subversion récurrent des genres genrés. Dans cette même optique, on pourrait relire à nouveau frais les contes, régulièrement écrit par une George Sand qui s'achemine, les années passant, vers l'adoption pleinement consciente d'une figure stéréotypée dont elle choisit d'arborer l'ensemble des traits, celle de la grand-mère. Avant d'en arriver à ce point précis, je voudrais attirer l'attention sur la mise en œuvre d'un dispositif d'évitement particulièrement subtil dans l'écriture des contes sandiens. L'exemple le plus frappant à cet égard est l'intertextualité qui relie les contes d'une grand-mère au conte des fées de Madame d'Aunoy, dans la mesure où cette œuvre, avant tout destinée, celle de Madame d'Aunoy, aux adultes, est riche en analyses sociales et en revendications féministes, sous couvert d'une approche merveilleuse et éminemment fantaisiste. Madame d'Aunoy érige une première fois cette stratégie de déviation des genres, que Sand renforcera deux siècles plus tard grâce à un principe d'inclusion intertextuelle et de redoublement, puisqu'elle-même reproduit ce même geste en le complexifiant. Jean Ménil a montré qu'au XVIIe siècle, le conte de fées est associé à l'idée d'un corpus féminin et infantile, ce qui correspond au topoi de l'écriture de la femme auteur qui ne se plaît que dans la bagatelle et les enfantillages. Fin de citation. Au XIXe siècle, les mentalités sur la gendérisation des genres littéraires ont peu évolué. Hervé de Broc, encore lui, affirme que les femmes sont douées par l'imagination et qu'elles sont naturellement éducatrices. Ainsi, en écrivant pour la jeunesse, destinataire supposée des contes, elles font œuvre de mère en faisant œuvre d'écrivain. Genre mineur, genre autorisé, le conte de fées n'est guère suspecté de subversion, aujourd'hui encore d'ailleurs. Sand s'y glisse avec d'autant plus de plaisir, allant jusqu'à revendiquer dans le titre des contes écrits pour ses deux petites filles, l'identité de la conteuse ancestrale et domestique, cette grand-mère que l'on peut en l'occurrence considérer comme, certes, reflétant une partie de l'identité profonde de l'écrivaine, mais aussi comme un masque, passeport pour une réception traditionnelle et inoffensive, et, à mon sens, magnifique cheval de Troie, permettant d'introduire et de transmettre, en particulier, un certain nombre de considérations sur la liberté des femmes. La critique voit maîtrise du tempérament là où il y a, au moins en partie, posture. Gustave Lanson diagnostique ainsi une quatrième et dernière période dans la production littéraire de George Sand, celle qui correspond, écrit-il, à la vieillesse sereine et souriante. Elle se met à conter, je le cite, un des histoires, comme une aimable grand-mère qu'elle est. Elle traite le public comme son enfant. Et il élargit ses propos au dernier roman de Sand, Idylle bourgeoise ou Beau récit d'amour dans des paysages d'après nature. Alors j'en viens au point que je voulais peut-être développer un petit peu plus, mais j'irai vite là aussi, qui est un roman singulier. Donc on peut faire les mêmes observations de manière plus pointue à l'intérieur, donc à l'échelle, disons, d'un seul roman. J'ai pris celui-ci qui me paraît particulièrement représentatif. Donc roman écrit en 1845 et complété l'année suivante, donc 44-45. Ce texte interroge le devenir d'une femme forcée à la prostitution, et qui s'empare elle-même des discours stéréotypés qui portent sur ses semblables. On en a parlé déjà, la critique en a parlé déjà, en ce sens, aucun doute qu'il ne s'agisse d'une œuvre originale et scandaleuse, en effet. Mais, au-delà de ce scénario audacieux, le roman organise et redistribue de façon particulièrement subversive, là encore, une représentation genrée des discours littéraires. Il s'agit en fait de fait d'une œuvre polymorphe qui fait se croiser deux voix en sus de celle du narrateur, et c'est la répartition de ces voix, l'une féminine et l'autre masculine, que j'aimerais interroger à l'aune des différents genres littéraires, genre dans le genre donc qui les porte à l'intérieur de ce roman. En effet, cet étonnant roman inclut trois formes de littérature personnelle qui se répartissent inégalement entre le protagoniste masculin, Jacques Laurent, et la protagoniste féminine, Isidore. Jacques est l'auteur de deux cahiers, dont les fragments alternent. Mais ils ne sont pas de même nature, comme le montrent leurs dénominations respectives. Cahier numéro 1, travail, et cahier numéro 2, journal, journal intime. Le premier, un recueil de notes pour un ouvrage philosophique, prend pour objet d'étude la nature féminine. La posture sur laquelle s'ouvre le roman est donc celle de l'affirmation d'une voix masculine dominante qui consonne avec les canons du genre, car le philosophe incarne très précisément les aptitudes dont ne disposent pas les femmes, si l'on en croit, par exemple, Monsieur Le Gouvet, auteur d'une histoire morale des femmes, qui estime que leur sexe se refuse aux conceptions fortes et hardies, aux abstractions, au pouvoir de généraliser et de concevoir les œuvres qui réclament des vues d'ensemble. C'est donc bien aux seuls hommes que reviennent ces aptitudes refusées à la nature de la femme. Même si le cahier numéro 1 reste inabouti, car il s'agit de notes et non pas d'une véritable, et seulement d'une recherche en cours, et même si ce cahier donc ne prend pas la forme de l'essai philosophique, son rédacteur y recourt volontiers à l'aphorisme, forme brève considérée comme la quintessence de la pensée et pour cette raison généralement associée à l'esprit masculin. Alain Montandon remarque en outre, à propos de l'aphorisme, qu'il n'est guère d'aphoriste heureux et que cette forme favorise une vision désenchantée du monde qui semble selon lui être contraire à la représentation de la femme, je cite son ouvrage sur les formes brèves. Les sentences ébauchées dans le cahier numéro 1 semblent ainsi corroborer cette capacité qu'auraient a priori les hommes à épingler le monde grâce à un tour d'esprit fort et hardi. Or, ce qui frappe à l'échelle du roman est un double dispositif de contamination et de résorption de la polarité masculine de l'écriture qui en ébranle progressivement la pertinence. On l'a dit, la pensée philosophique de Jacques Laurent est hésitante, sinon balbutiante, sujette à des interrogations, voire à des palinodies, et la vigueur de l'aphorisme en vient à être désamorcée par l'immixtion du « je diariste », n'oublions pas le cahier numéro 2, dans le discours. Or, ce « je » élabore un métadiscours plus personnel que théorique. Ainsi, dans le fragment du 27 décembre, dans la fiction romanesque, la réflexion philosophique pourtant bien enclenchée dans le cahier numéro 1 tourne court. À une série d'énoncés sur l'éducation succèdent les réflexions d'un « je » en proie au doute, qui critique sa propre démarche. Je cite « Cela me fait aussi songer que j'établis a priori une distinction arbitraire entre l'éducation des mâles et celle des femelles, presque dès le berceau. » L'interaction du philosophe et de l'intime est d'ailleurs renforcée par le principe d'alternance entre les deux cahiers, qui crée parfois un effet d'enchaînement. Par exemple, dans la suite immédiate du fragment que je viens de citer, la page du cahier numéro 2 commence ainsi. « Cette difficulté m'a arrêté court. » Et là, on est dans le journal intime. Le démonstratif anaphorique renvoie sans ambiguïté au texte interrompu du cahier numéro 1, créant un lien troublant entre cahier de travail et journal intime. De tels effets de continuité, on pourrait multiplier les exemples, brouillent la représentation des genres littéraires et fragilisent par la même occasion le système de représentation genrée qui est censé les identifier et la hiérarchie implicite des sexes qui en découle. Cette contamination déstabilisante des genres confine même à l'inversion dans la troisième partie du roman, il y a trois parties, où un nouveau système d'indexation générique se met en place. Le binôme cahier de travail, journal intime disparaît alors au profit d'une alternance de contenu et non plus de forme. Désormais alterne le cahier I comme Isidora et le cahier A comme Alice, les deux femmes entre lesquelles se partage désormais l'amour de Jacques. Donc on a glissé dans le domaine des sentiments. Rédigez donc l'un et l'autre à la première personne du singulier, centrez l'un comme l'autre sur l'expérience, le devenir et le sentiment du sujet. Les fragments qui nous sont présentés relèvent uniquement du genre diariste et replient la réflexion sur la sphère du sentiment, de sorte que le scripteur est réduit à se replier dans la réflexion solipsiste d'une écriture gagnée par l'expression lyrique. Je cite « Triste cœur, tu es mécontent de toi-même », s'exclame-t-il par exemple. Dans le dernier fragment, le texte de Jacques Laurent subit même une ultime distorsion et confine à l'écriture épistolaire, puisque le personnage s'y adresse directement à Alice. « Et vous qui n'aimez pas, qui n'avez peut-être jamais aimé, etc. etc. » C'est là précisément que le narrateur, qui reprend ses droits, choisit d'interrompre net les confidences du protagoniste. Ici, je cite, « Le journal de Jacques Laurent paraît avoir été brusquement abandonné. Nous en avons vainement cherché la suite. » La voix du personnage masculin en vient donc à disparaître de manière abrupte pour laisser place à une série de lettres qui correspondent à la mise en texte du récit jusqu'alors seulement oralisé d'Isidora. En deux secondes, je voudrais revenir sur l'éthos du personnage d'Isidora. Dans la première partie du roman, quand elle rencontre Jacques, rencontre sentimentale dans un jardin privé parisien, cette scène de rencontre réactive le topos de la rencontre amoureuse au jardin. En effet, c'est autour d'un livre déposé sur le banc de la serre du Contrat social de Rousseau que s'instaure le dialogue entre cet homme et cette femme sous l'espèce d'un échange philosophique. On a là une image de la femme au jardin qui est renouvelée par la mise en place d'une image de la femme lectrice, mais pas lectrice de roman, lectrice et philosophe, qui plus est, une femme qui s'arroge le droit de dire, parlant de Rousseau, « Il n'a pas compris les femmes, ce sublime Rousseau. Il n'a pas su, malgré sa bonne volonté et ses bonnes intentions, en faire autre chose que des êtres secondaires dans la société. » Alors, cette configuration choisie par Sand, donc, est évidemment essentielle, puisqu'elle confère, à Isidora des compétences, précisément, de celles qui ne sont pas reconnues aux femmes. Et c'est dans ce contexte singulier que doit s'appréhender le passage de l'oral à l'écrit, mais plus encore, la particularité des lettres sur lesquelles s'achève le roman. Car la portée de cet accès de la femme à l'écriture risquerait d'être minorée pour peu que l'on revienne à l'analyse encore du vicomte de Broc. Pour lui, en effet, le style épistolaire devait être surtout le partage d'un sexe qui excelle dans la causerie, etc. Je passe. Mais les lettres d'Isidora ne s'apparentent guère à une causerie. Si elles prennent d'abord l'allure d'une confession, cette confession est approfondie par des réflexions éthiques et philosophiques sur la nature humaine, puis même par des considérations métadiscursives sur le langage. En particulier, dans la lettre 2, il y en a 5. C'est dans cette même lettre 2 qu'est insérée la réflexion imagée d'Isidora sur le vieillir au féminin, qui prend la forme de ce qui est d'abord appelé, par elle-même, métaphore, puis apologue. La lettre dépasse alors le statut d'autobiographie épistolaire ou d'autobiographie déguisée que lui assigne généralement la critique, car elle se fait laboratoire expérimental, en quête, sans doute, d'une poétique. Nathalie Bucher-Roger a remarqué que le récit oral fait par Isidora à Jacques, puis à Alice, dans la deuxième partie du roman, témoigne d'une conscience aiguë de sa propre facture romanesque. Si l'analyse semble alors porter sur le rapport du vraisemblable, et interroger, écrit-elle, la vérité romanesque du récit réaliste, c'est son rapport à la philosophie, je poursuis, et à la poésie qui est ici envisagée et pour ainsi dire mise en œuvre dans une forme inédite qui déconstruit les attendus du genre épistolaire en termes de représentation genrée, je conclus. George Sand a une perception aiguë de la réception genrée des genres et formes littéraires. À propos d'un tout autre texte, Gabriel, un roman dialogué, elle écrit de Bulloz, et moi j'aime beaucoup cette citation, et je prends sur moi de l'élargir à l'ensemble de son œuvre, « La forme lui fera avaler le fond ». Formule manifestement généralisable à l'ensemble de ses œuvres qui s'emparent de genres pensés comme féminins ou mineurs, pour y introduire en toute liberté des considérations plus subversives. La stratégie de déviation qu'elle met en place lui permet ainsi de déjouer les attentes du public et de contourner au besoin les exigences des éditeurs. Mais elle convertit conjointement l'œuvre en laboratoire des formes, formes qui, comme le montre l'exemple d'Isidora, sont moins étanches que ne le laisse imaginer une stricte réception genrée. Si les formes bougent et se contaminent, elles font bouger en même temps les stéréotypes de genre et par là même les déconstruisent. Je vous remercie.